Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. On commence avec quelques informations locales. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Local ou pas local d'ailleurs, puisqu'on commence avec ce 19 avril, c'est la semaine dernière, le PCOF, Parti communiste des ouvriers de France, publie un communiqué mettant en garde contre la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien.
Oui, Jean-Paul Delesco, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord, vient d'être condamné à un an de prison avec sursis après avoir diffusé, le 10 octobre 2024, des tracts de soutien avec la Palestine. Sur le tract en question était écrit, je cite, « La fin de l'occupation est la condition de la paix en Palestine ». Et la dénonciation dans ce tract des, je cite, « horreurs de l'occupation illégale qui se sont accumulées et de la politique d'apartheid de concentrationnaires privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux » a été assimilée à une apologie du terrorisme, c'est ce pourquoi il a été condamné. Le PCOF dénonce cette condamnation qui relève pour elle, je cite, « d'un précédent dangereux dans une série de plus de 40 procédures en cours » visant sur le même motif des personnalités, des militants et des militantes et des organisations. L'Union départementale du Nord et le mise en cause ont fait appel de cette décision. Et la CGT, dans un communiqué, dénonce elle aussi cette décision. Elle dit, je cite, « En déniant à une parole syndicale la possibilité de porter une analyse géopolitique et de penser le monde, en criminalisant lourdement cette période sur le registre de la répression terroriste, nous assistons à une nouvelle dérive et à une réduction importante du périmètre de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. »
On revient dans le sud de la France avec ce week-end plusieurs mobilisations qui ont lieu contre le projet de ligne à grande vitesse, le GPSO, qui relierait Bordeaux, Dax et Bordeaux-Toulouse, des mobilisations qui ont lieu à Cadojac.
À l'initiative de ces mobilisations, c'est le collectif LGV Non Merci, regroupant plusieurs groupes locaux de personnes opposées à ce projet de ligne à grande vitesse. Et à la suite de la manifestation intitulée « La Grande Vadrouille », plusieurs personnes mobilisées contre le projet de LGV ont squatté une ancienne ferme qui vient d'être expropriée et qui sera bientôt détruite pour élargir la voie ferrée. Après moins de 24 heures de blocage, une trentaine de gendarmes sont venus déloger les occupants et les occupantes de la ferme, qui sont partis de manière totalement pacifiste. Et sur le site LGV Non Merci, le collectif explique et rappelle en quoi ce projet est une, je cite, « aberration ». Et parmi ce qui est cité, il est rappelé que ce projet piétine les enquêtes publiques qui lui sont défavorables à plus de 90%, ainsi que de multiples rapports soulignant sa non-pertinence, voire son incohérence. Il est passé en force sous déclaration d'utilité publique, malgré les nombreux recours au tribunal administratif. De plus, du point de vue écologique, ce projet va détruire près de 5000 hectares de terres agricoles, de forêts et de zones humides, fragmenter des écosystèmes et fragiliser encore plus la biodiversité, dont une dizaine de sites Natura 2000. Et du point de vue économique et financier, ce projet coûte 14 milliards d'euros. C'est en attente de réactualisation, ce chiffre. Il repose sur un financement conjoint de l'État à 40%, des collectivités qui prélèvent une taxe supplémentaire auprès des habitants et des habitantes à hauteur de 40% du projet et de l'Union européenne à hauteur de 20% qui n'a pourtant jamais confirmé prendre sa part.
Enfin, hier, un nouveau contrat de ville a été signé avec 12 communes de la métropole de Bordeaux et l'État.
L'objectif est de réduire d'ici 2030, je cite, « les écarts de développement, restaurer l'égalité républicaine, améliorer les conditions de vie des habitants et des habitantes des quartiers prioritaires ». Parmi les signataires, de nombreuses instances comme la CAF, France Travail, l'ARS et de nombreux acteurs et actrices travaillant sur ces quartiers. Et parmi les chiffres relevés par Sud-Ouest dans ces quartiers prioritaires, ce sont 38% des plus de 15 ans qui ont terminé leur scolarité sans diplôme, 40% des foyers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 24% de travailleuses précaires et 30% des familles qui sont en situation de monoparentalité. Et selon des informations Sud-Ouest, 23 quartiers sont concernés par le contrat, soit plus de 70 000 habitants et habitantes. Le périmètre de ces quartiers, qui parfois fait débat, a été retouché pour prendre en compte les réalités de terrain. Le calcul de ces zones prioritaires se fait sur la concentration de pauvreté et est parfois biaisé par des phénomènes de gentrification. Le périmètre du Grand Parc a notamment été élargi, passant de 4 000 à 8200 habitants. Et deux nouveaux quartiers entrent dans le dispositif, Olivrac à Pessac et Maurice Thorez à Bègles. Christine Bost, présidente de Bordeaux Métropole et maire d'Eysines, rappelait, je cite, que 9% des habitants et des habitantes de la métropole vivent dans ces quartiers. Il faut agir pour que les fragilités sociales soient du mieux possible gommées. Et le mois prochain, la métropole devrait voter un plan d'aide d'urgence de 35 millions d'euros pour le logement social. Actuellement, ce sont 40 000 demandes de logements sociaux qui sont en attente en Gironde.
Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations. Et puis une petite page culturelle avec les infos culturelles au calendrier dans les quartiers nord de Bordeaux et Jennifer de Bordeaux Nord. Bonjour Jennifer.
Bonjour aux auditeurs de la Clé des Ondes. Le collectif Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Dans le cadre du mois de la photographie, le collectif Photo Club propose une exposition du travail de 10 photographes à la croisée des regards, visible à la Halle des Chartrons jusqu'au 28 avril de 10h à 19h. La bibliothèque du Grand Parc organise un atelier nommé Blason et pas blasé à destination des 6-12 ans, mardi 23 avril de 11h à midi. Les Jurés de l'Art exposent le travail de la plasticienne Sylvanie Tendron du 18 au 30 avril. L'annexe B au Grand Parc accueille l'exposition artistique nommée Utérus. Il s'agit d'une œuvre collaborative de Sophia Rivas et Amina Abdallah à découvrir jusqu'au 28 avril. La seconde édition du festival Digital Days Bordeaux s'installe au centre d'animation du Grand Parc jusqu'au 3 mai. Au rendez-vous de cette semaine, atelier de captation sonore du chant des plantes, le mercredi 24 avril de 14h à 17h30, puis atelier de création et composition à partir de ces captations, le jeudi 25 et vendredi 26 avril de 17h à 18h. L'association Interlude propose un atelier de fabrication d'un attribut de clown à partir de 4 ans. Rendez-vous jeudi 25 juillet de 10h à midi à la ludothèque des Berges du Lac. L'association Les Petits Tréteaux organise tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 des ateliers de théâtre gratuits, ouverts à toutes et tous. Rendez-vous jeudi 25 avril au Centre Social du Grand Parc. Blonde Vénus organise une soirée cinéma avec le film de Tim Burton, Big Fish, ce jeudi 25 avril à 20h. La bibliothèque de Bordeaux-Lac propose diverses animations. Une animation musicale pour les 4-7 ans, vendredi 26 avril de 15h à 16h, et un café littéraire thématique, samedi 27 avril à 11h. La Cité Bleue de Bacalan accueille la compagnie Jusqu'à l'aube pour un temps de répétition publique de sa nouvelle création théâtrale « Quand j'étais petite, je voterai » à partir de 6 ans. Rendez-vous vendredi 26 avril de 18h à 19h. La troupe Hip Hop Games débarque à la salle des fêtes du Grand Parc pour un format inédit. Le bal Hip Hop Games et ses guests. Pour cette édition spéciale, la troupe s'est associée à des talents locaux et aux associations Fish and Shoes et La Belle à l'Ouest pour vous offrir une soirée dansante époustouflante. Ouverture des portes à partir de 19h le samedi 27 avril. La 33e édition de l'itinéraire des photographes voyageurs se poursuit jusqu'au 28 avril dans plusieurs lieux de la ville de Bordeaux, dont la galerie Arrêt sur l'image et la maison Bourbon sur le quartier Chartrons Nord. Et pour finir, le collectif Bordeaux Nord vous invite à créer et à participer à la future édition de la fête du quartier de Chartrons Nord, l'été en or. Pour ce faire, nous lançons un défi aux habitants. Créer, dessiner, écrire, fabriquer sur le thème du vivant pour exposer à l'été en or dans la rue Joséphine jusqu'au parc Chantecrie. Toutes les créations et tous les matériaux sont les bienvenus, seuls ou à plusieurs, en famille, entre amis, en classe, en groupe. Ce n'est pas une compétition, mais une grande contribution collective à laquelle on peut participer, quel que soit son âge. Inscrivez-vous auprès de nous, plus d'infos sur notre site internet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
Merci beaucoup Jennifer pour toutes ces infos. Midi 19 sur la Clé des Ondes. Alors ce jeudi 25 avril, on fêtera les 50 ans de la révolution des œillets. C'est une date importante, celle du renversement d'un régime dictatorial. C'est considéré aussi par certains comme la dernière révolution en date sur le sol européen. Une date importante aussi pour notre radio et son importante communauté d'auditeurs et d'auditrices portugais-portugaises. Demain midi sur notre antenne, on entendra le témoignage d'Adelino Gomes qui est journaliste et qui a couvert le 25 avril 1974 à Lisbonne. Aujourd'hui, on reçoit des Bordelais et Bordelaises qui ont un lien plus ou moins fort avec le 25 avril, avec cette date, avec cette révolution. Pour commencer, Manuel Dias. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Tu es né au Portugal sous la dictature, tu es arrivé en France à 18 ans. On peut dire que tu as milité toute ta vie pour la reconnaissance et la solidarité avec les immigrés. Tu continues d'ailleurs de le faire. Tu es membre aujourd'hui du comité Sousa Mendes et de la Ligue des droits de l'homme. Maria Luisa Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Tu es portugaise toi aussi. Tu étais à la fin de tes études pour devenir enseignante en avril 74
J'étais
à Porto.
J'étais déjà enseignante.
Déjà enseignante.
Je passais le stage pour ce qui correspond à la grecque, des universitaires.
Michel Cabanne, bonjour Michel.
Bonjour.
Économiste français, toi, on t'entend tous les mois dans les clés de l'écho dans cette même émission. En 74, tu étais engagé en politique avec le PSU et tu t'es intéressé à la situation du Portugal à cette époque-là avec des amis à toi qui étaient portugais. Mélina, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es d'origine portugaise, tu es française, tu es étudiante en droit et militante à Révolution Permanente. On aura avec toi le regard d'une personne qui n'a pas vécu cet événement-là. Et puis, on attend, s'il arrive, Valdemar Félix, bien connu de nos auditeurs et auditrices, animateur des émissions portugaises le week-end, Portugal em Bordeaux et Aqui Portugal, sur notre antenne le dimanche matin. Je vais commencer par un petit rappel historique, j'espère en disant pas trop de bêtises. Alors au début des années 70, le Portugal est engagé dans des guerres coloniales en Angola et au Mozambique. Ces guerres touchent durement la population, sommet d'y envoyer ses fils. Mais elles sont aussi un terreau de radicalisation pour des militaires qui constatent l'absurdité de ces conflits et refusent d'y participer de plus en plus. C'est dans ce contexte que des capitaines de l'armée s'organisent jusqu'à cet événement dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, avec d'abord un signal qui est lancé à la radio par la diffusion de deux chansons, dont Grandola Villa Morena, qui était alors interdite par le régime. Des troupes se mettent alors en route vers Lisbonne afin de destituer Marcelo Caetano, qui était alors le successeur de Salazar à la tête du gouvernement. C'est le début de cet épisode qui conduira à la démocratisation de l'État portugais. On va se demander, nous, ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui, ce qui reste de cet événement et de la révolution des œillets 50 ans après. J'ai envie de vous demander, peut-être pour commencer, vos souvenirs de cette époque. Alors, cette époque d'une période où à la fois il y a encore cette chape de plomb de la dictature et puis où les choses vont basculer plus ou moins rapidement. Maria Luisa, toi, à cette époque, donc, tu commençais à enseigner. Quel souvenir tu gardes de ces jours-ci, et notamment du 25 avril ?
Je garde des souvenirs, puisque j'ai commencé à enseigner. Et c'est pour... j'avais 24 ans. Et à l'époque, avec des collègues aussi enseignants, on se réunissait clandestinement, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas se réunir.
Les syndicats étaient interdits.
Ah, c'est complètement interdit. On ne pouvait pas avoir un groupe de plus de 3 personnes dans la rue. Autrement, la police viendrait immédiatement. Mmh. La plupart des musiques, tu ne pouvais pas écouter, ni de rien. Donc, c'était vraiment une chape de pont. Par exemple, je faisais mon stage dans le lycée où la maîtresse de Caetano était la directrice.
Qui venait Elle avait espionner. Été la maîtresse du chef du gouvernement.
Oui, Irene Lisboa, une très connue sculptrice, etc. Par exemple, elle venait regarder par la vitre. Voilà, moi, comme je faisais des formations sur la créativité, des groupes, des sous-groupes, évidemment que c'était complètement interdit. Par exemple, elle aimait humilier les enseignants en me disant « Agenouille-toi par terre dans la salle des profs », puisqu'évidemment, mes mini-jupes n'arrivaient pas jusqu'au sol. En même temps, c'est sûr que j'étais une privilégiée et que je voyageais beaucoup. J'avais fait des études en Angleterre, etc. Et j'avais un passeport. C'est seulement maintenant, quand j'ai rencontré mes amis, que j'ai su que la plupart des Portugais n'avaient pas droit à un passeport. Mmh. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Or, et comble de la chance, bon, j'avais mon beau-frère qui était le secrétaire. Je parle de juste avant,
juste avant 24 avril,
était le secrétaire du général Costa Gomes. Et je sortais avec un capitaine d'avril. Pensez-vous.
Donc les capitaines, ce sont ces officiers qui avaient été dans les guerres coloniales et qui ont déclenché ce coup d'État.
Mais pensez-vous qu'ils disaient quelque chose? Non, rien. Ils n'ont rien dit. Il y a eu mon beau-frère qui disait « Demain, ne sortez pas trop la nuit, moi, de sortir. Ben, je vais chez mes amis comme d'habitude. » Parce que vraiment, personne ne s'est... Nadine n'a soufflé un mot. Donc, c'était vraiment tout très, très bien préparé, très bien, et ils ont tous tenu. Ça, c'était, je trouve que c'était incroyable qu'ils soient capables de garder le secret comme ça.
Et alors, bien quand sûr, ça arrive, quand tu apprends ce qui se passe
Bon, le 24, j'étais avec des amis, etc., et on écoutait la radio, on écoutait le programme Limite, évidemment. Qu'est-ce que j'entends ? Grendula Villa Mourenne, je me dis, mais il est fou, les sauvages cancels, c'est quoi ça? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Bon, voilà, mais, on, donc, mais après, bon, je suis allée me coucher normalement, chez moi et tout. Et c'est seulement le matin, quand je me suis levée, que j'ai entendu ici, comment qu'il y a, aqui, posto de comando das Forças Armadas, movimento das Forças Armadas. J'ai dit, bon, voilà, ça y est, c'est quelque chose qui...
Traduction.
Ici, poste de commandement des forces armées. Nous sommes le mouvement des forces armées. Voilà, mais carrément à la radio. C'était incroyable d'écouter ça vraiment à la radio. Vous ne pouvez pas imaginer. Et après, bien sûr, comme Manuel a dit, vraiment, ce qui était extraordinaire, c'était après, parce que tout ça, il faisait très beau. C'est très chaud. Et alors, tout le monde se mettait à parler avec des sigles. Ta, 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 et beaucoup disaient, ah, je fais en CPI, cours de plage intensif, au lieu d'aller faire des choses comme ça. Mais ce qui était
qu'est-ce
vraiment...
que ça voulait dire alors, tous ces sigles, c'était quoi?
Parce qu'on commençait à parler avec des mouvements, des choses comme ça. Bon, on parlait déjà comme ça, bah, parmi les étudiants de gauche, des choses comme ça. Mais après, tout le monde se mettait à parler comme ça. Bon, bref.
Et c'était une vague de politisation, en tout cas de discussion politique, c'est
de
ça
politisation.
Sur...
C'est-à-dire que, par exemple, le jour du 25 avril, l'après-midi, donc bien sûr, je suis allée travailler. Et alors, l'autre, la directrice en noir, avec des lunettes, comment vous pouvez être si heureux quand mes amis sont en prison? Je disais, écoutez, donnez-moi la clé du coffre. Donc, pour qu'elle nous donne la clé du coffre. Sinon, bon, après, on a appelé des militaires qui étaient à côté et tout. Et elle était très simple. Elle a dit, ah, je vous la donne la clé parce que vous appartenez à des familles connues. Bon, elle donne la clé. On va au coffre et on trouve qu'elle nous avait dénoncé à tous. Heureusement, c'était le 25 avril à 15h de l'après-midi. Et donc, notre réunion qui était supposée être... clandestine, est devenue une réunion
officielle.
Mais vous voyez le style de... C'était vraiment... Tout était interdit. Tout.
Manuel Diaz, donc toi, tu étais déjà en France à ce moment-là. Tu travaillais au chantier naval de Nantes, tu étais à la CFDT, syndicaliste notamment. Comment ces événements-là, toi, en tant que Portugais en France, tu les as reçus? Qu'est-ce que ça... représenter peut-être pour toi tout de suite ce moment-là?
D'abord, une grande joie et en même temps un sentiment de liberté. Donc, ce qui nous a été interdit pendant 48 ans. Et deuxièmement, le sentiment effectivement qu'on allait enfin pouvoir tourner la page de ces sinistres guerres coloniales qui avaient été un massacre humain et financier pour le Portugal, et pour moi également, c'était retrouver la démocratie et pouvoir rêver. Je pense que nous, on nous a interdit pendant notre jeunesse de rêver, de respirer, de vivre tout simplement. C'était la notion de pouvoir enfin respirer, de pouvoir être un homme ou une femme libre.
Toi, tu étais parti du Portugal 10 ans avant, c'est ça?
Moi, j'étais parti du Portugal 10 ans avant pour fuir la guerre coloniale.
Pour ne pas
pour
être mobilisé, c'est ça?
Le fascisme et en même temps la répression. Moi, j'étais membre d'un syndicat clandestin. À l'époque, on était surveillés comme le lait sous le feu. agir au Portugal dans les années 60, c'était prendre des risques incalculables.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu entends, j'imagine, à la radio, dans les infos, ce qui se passe au Portugal. À ce moment-là, c'est un coup d'État militaire, quand même. C'est pas encore une révolution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce qu'il y a ce mouvement de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait de ce moment-là, Manuel?
Le 26 à midi, nous avons organisé au chantier naval de Nantes une réunion avec des Portugais qui travaillaient au chantier naval. Et ça a été pour nous le premier moment de joie collective. Parce que d'abord, ça a été une joie personnelle où chacun a essayé de déguster ces moments de bonheur. Et dès le 26 avril, au chantier naval, à midi, pendant le repas, on s'est retrouvés et on a commencé à partager nos informations. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer à Nantes le premier comité de soutien à la Révolution portugaise. Le premier a été constitué à Paris et le deuxième comité de soutien à la Révolution portugaise a été constitué à Nantes, au chantier naval.
Et alors, c'était quoi l'idée de ces comités de soutien?
L'idée, c'était effectivement de partager nos informations, de comprendre ce qui était en train de se passer, parce que au Portugal, en 1974, c'était un coup d'État militaire. Et c'était une volonté des soldats et des membres des forces armées de mettre un terme à la guerre coloniale et d'assurer une transition. Le Portugal a connu la révolution à partir du 1er mai 1974, lorsqu'à Lisbonne, 1 million de personnes s'est trouvé dans la rue. C'était gigantesque. À Porto, 450 000. Dans un certain nombre de villes comme Viana do Castelo, Setúbal et d'autres villes, le 1er mai au Portugal a été une explosion de joie. Et c'était là où le peuple s'est approprié ce processus révolutionnaire. Et c'est à partir de là que le peuple a été aux portes de prison pour faire libérer les prisonniers. Parce que les soldats qui ont fait le 25 avril n'avaient pas l'intention de libérer tous les prisonniers. La libération, l'ouverture des portes des prisons s'est faite grâce au mouvement des foules, grâce à cette joie immense qui a complètement bouleversé tout le monde. Moi, j'ai eu une discussion avec Otel Schreiber de Carvalho qui m'a dit « Moi, je n'ai jamais pu imaginer comment ces peuples avaient autant envie de liberté. »
Maria Luisa, oui, tu es d'accord avec ce truc. À la fois, dans ce que dit Emmanuel, il y a deux choses. Il y a la joie, le bonheur de ce moment-là, et il y a ce qui se passe.
Ce 1er mai, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'était, mais vraiment une foule. Les drapeaux rouges, mais tous les drapeaux, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Comme on commençait moi j'étais à Porto, à commencer à voir tout le monde qui descendait en chantant. C'était indescriptible. Qu'est-ce que c'était ce 1er mai? Et vraiment, par exemple, comme je t'avais dit, même si les autres m'avaient dit « ne sors pas, tu parles », on sortait tout le monde là, tout le monde dans la rue, tout le monde, et c'est là où vraiment on s'est approprié de... Et après, par la suite, c'était très intéressant. On passait tout le temps à faire des réunions. Moi, j'étais déléguée syndicale tout de suite. On faisait beaucoup de... Et on allait, par exemple, en mission dans le nord, à Trás-os-Montes, dans des écoles, etc., pour justement sensibiliser les personnes. Et c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait pas mal de Français qui venaient avec nous. Mais c'était un peu compliqué parce que nous, on était pressés de faire c'était pas l'alphabétisation, mais la politisation. Et on ne pouvait pas passer tout le temps à traduire en français, etc., puisqu'ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Mais c'était vraiment très, très, très intéressant. C'était...
Justement,
par exemple, une chose incroyable, avant, je pense, puisque j'ai Simeline, avant le 25 avril, par exemple, des étudiants à Porto qui se réunissaient dans un café qui était de gauche, et le signal pour qu'on se réunisse, c'était d'aller au hôtel, quelqu'un au café disait comme ça, « Allô, allô, Monsieur Che Guevara au téléphone. Monsieur Che Guevara au téléphone. Bon, et nous, on savait déjà qu'un truc comme ça, c'était pour qu'on puisse se réunir. Mais la personne qui faisait ça, elle pourrait aller en prison. Pour un truc comme ça.
Justement, tu parlais des Français qui sont arrivés à ce moment-là au Portugal. Michel Cabanne, toi, tu es français, tu étais en France, engagé en politique avec le PSU. C'est quoi l'onde de choc qui arrive à ce moment-là en France et qui saisit aussi les militants français ?
Alors, ça a été une formidable surprise le 25 avril 1974. Il y avait, au niveau européen et mondial, déjà une forte effervescence. Il y avait eu 68 en France, mais dans beaucoup d'autres pays, il y avait des mouvements sociaux importants. Il y avait les difficultés des États-Unis, la guerre du Vietnam et leur départ. Et en sens inverse, il y avait eu le coup d'État au Chili 8 mois avant.
Coup d'État contre Salvatore Allende.
Tout le monde s'intéressait aux affaires internationales, mais il y avait la péninsule ibérique qui paraissait être complètement congelée, figée. À l'écart de tout cela. Et alors, lorsque on a eu cette journée du 25 avril, ça a été la stupéfaction, ça a été une surprise magnifique pour nous tous, quoi. Et avec au moins deux aspects. Le premier aspect, c'est que ce soit l'armée, que ce soit des militaires qui aient fait ce coup d'État qui a été le point de départ d'une vraie révolution. Pour nous, l'armée, c'était l'armée coloniale. Dont, et en plus, au Chili, l'armée avait fait un coup d'État d'extrême droite. Donc, c'était inimaginable qu'un mouvement progressiste, et démocratique et progressiste au niveau des structures sociales aussi, apparemment, à voir ce qu'est devenu le MFA après, en cours de route, vraiment, ça a été la grande surprise. Et deuxième surprise, la manière dont le peuple portugais a embrayé immédiatement dans la journée les Lisboètes qui sont descendus dans la rue avec des centaines et des centaines de milliers de personnes à Porto aussi, tu disais, Manuel. Donc, ces deux aspects de la révolution portugaise, ça nous a beaucoup surpris et véritablement émerveillés. Et donc, l'année après, eh bien, il y a eu beaucoup de jeunes de divers pays européens qui ont décidé d'aller pendant l'été en vacances au Portugal. Moi, je me suis retrouvé en août 75, passé un mois dans les principales villes, j'ai vu les manifestations, etc. Mais notre motivation, c'était de chercher à comprendre, et évidemment de soutenir, mais surtout de chercher à comprendre cette révolution portugaise qui nous avait beaucoup surpris.
Et d'en retirer quelque chose, peut-être, à ramener en France.
En plus, oui, éventuellement. En l'été 75, c'était ce qu'on appelait l'été chaud au Portugal, et c'était posé les principaux problèmes qui peuvent se poser à un mouvement de rupture avec l'ordre antérieur, entre les plus radicaux, les plus modérés, les civils, les militaires, le PC, le PS. Il y avait plusieurs clivages qui interféraient et qui faisaient que c'était une situation extrêmement compliquée. Mais je pense vraiment, au vu de ce qui s'est passé ensuite, que la grande majorité avait un grand sens des responsabilités dans une situation extrêmement difficile.
Et justement, pour se rassembler, il y a plusieurs événements cette fin de semaine. Très rapidement, Manuel, jeudi après-midi au Rocher de Palmer, il y a toute une journée consacrée au Portugal.
Jeudi après-midi, on projette un film de M. Arnaud, qui est le mari de Marie-Louise, qui s'appelle « Les murs en la parole », qui montre effectivement cette explosion de joie et comment la culture a été le théâtre de l'explication ou de l'illustration de ces combats. Il y a également un concert qui aura lieu le soir avec un grand artiste angolais qui a vécu longtemps au Portugal, parce que nous avons également voulu, avec Bonga, faire le lien avec l'histoire coloniale portugaise et la fin de 5 siècles d'empire.
Merci Manuel. Mélina, il y a un événement de Révolution Permanente aussi jeudi, très vite.
Oui, il y en a deux. Il y en a un jeudi, donc on fait une projection de débat sur les 50 ans de la Révolution des œillets aux têtes de la Rousselle à 18h30, donc c'est jeudi 25 avril. Et le 3 mai, on organise une assemblée ouverte avec Révolution Permanente pour s'organiser pour faire face à l'extrême droite à 18h30 à l'Athénée de l'Hyper. Non. la tenue municipale, pardon.
Merci beaucoup. Et puis on signale aussi qu'il y aura une fête portugaise à Léognan dimanche à 15h. C'est au Hall de Gascogne. Merci beaucoup à vous quatre, Manuel Diaz, Michel Cabane, Maria Luisa et Mélina, d'être venus participer à cette émission.